Chapitre 91. Alexandre Jacob avait bien cru que le monde allait s'écrouler quand il avait reçu l'appel d'Amandine. Un laboratoire clandestin en plein Paris. Des rats, des puces, des animaux agonisant dans des cages. Amandine mordue par un animal malade. Le tout en rapport avec celui ou ceux qui avaient répandu la grippe des oiseaux. Immédiatement, il avait sollicité 4 membres du GIM en astreinte au CNR, dont Johan, contacté Sébastien Sadouin, le spécialiste des pathogènes Yersinia de l'Institut Pasteur de Paris, et avait foncé avec son équipe et le matériel d'alerte biologique dans 2 véhicules banalisés. En ce dimanche matin, il avait aussi jugé nécessaire de prévenir, sur sa ligne personnelle, le directeur de l'IVE et de lui exposer, avec le peu d'informations dont il disposait, la situation. Rue des Frigos, l'équipe sortit avec discrétion, chargée d'équipements rangés dans de grosses valises cubiques, s'engagea dans la grande cour carrée et arriva devant l'accès principal du bâtiment qui abritait dans ses entrailles le laboratoire. Le long des murs, à l'abri des regards lointains, ils se vêtirent de combinaisons intégrales, masques de protection, gants, charlottes, surchaussures, puis pénétrèrent à l'intérieur. Ils découvrirent avec effroi le cadavre étendu en travers du couloir. Jacob verrouilla l'entrée. « Pierre et Frédéric, vous vous occupez du corps. Désinfection complète. Il faut briefer les policiers sur la suite des événements. S'ils doivent faire une autopsie, elle se réalisera en laboratoire haute sécurité. On ne prend aucun risque. » Les deux hommes posèrent leurs valises, tandis que Jacob et ses 3 accompagnateurs passèrent au-dessus du cadavre avec prudence. Ils refermèrent l'autre porte et s'engagèrent dans l'escalier en colimaçon. Les policiers et Amandine attendaient, crispés et silencieux. La jeune femme était à l'écart du groupe, assise contre le mur. Jacob resta à bonne distance et fixa la main gantée de la scientifique avec la trace de sang séché bien visible à l'intérieur du gant. « Quand as-tu enfilé ce gant ?»«
Tout de suite après avoir été mordu. J'ai aussitôt désinfecté. La bactérie n'est pas sortie de ce labo, j'en suis presque certaine. »
Le chef du GIM échangea un rapide regard avec Sébastien Sadouin, puis revint vers la jeune femme. « On va installer une douche de décontamination. Vous allez y passer les uns après les autres. Amandine en premier. Par précaution, tu ne remettras pas tes habits. Puis on t'emmène à Saint-Louis. » Il fixa Johan. « J'ai prévenu le professeur Switzer. Il est au courant de la situation, il vous attend là-bas. » Il s'adressa ensuite à Lamordier. « On va vous asperger d'insecticides pour les puces et utiliser un brumisateur pour la diffusion d'un produit antibactérien sur votre corps. Personne, strictement personne en dehors des individus qui sont ici, ne doit être au courant de ce qui se passe. N'en parlez pas à vos familles ni à vos collègues. Laissez-nous gérer. Nulle part il n'est question de peste. Ce microbe n'existe pas, d'accord ? Vous imaginez aisément les conséquences si la population ou les médias étaient au courant. »
Très bien.
Je compte sur vous, sur votre professionnalisme. » L'un des membres du GIM posa au sol un gros sac à poignée renforcé et en sortit une structure en polyuréthane qui se gonfla d'elle-même en 1 minute à peine. Un parallèle épipède de 2 mètres de haut et 1 mètre de côté se forma. 2 tuyaux en forme de ressort extensible pendaient du plafond et on pouvait cloisonner le volume à l'aide de panneaux souples à fermeture éclair. Le scientifique sortit également un bidon rempli de liquide translucide et une grosse bombe d'insecticide. Amandine s'avança la première. Elle se déshabilla à l'intérieur de la structure. Elle tremblait. La pire des bactéries, l'une des plus grandes tueuses de l'humanité, était peut-être en train de s'installer en elle. Quelqu'un, depuis l'extérieur, passa ses mains dans 2 bras en caoutchouc, solidaires de l'une des parois, puis l'aspergea d'insecticides et d'antimicrobiens de la tête aux pieds. Il en fut de même pour ses vêtements qui finirent dans un sac plastique. Elle sortit, vêtue d'une combinaison neuve, d'une double paire de gants, d'un masque respiratoire FFP2. Ce fut Johan qui s'approcha, les clés d'un véhicule à la main. « Allez, on y va !» Amandine jeta un coup d'œil triste vers les policiers, puis s'éloigna. Nicolas se détacha du groupe et s'avança vers la douche. Il fixa Jacob. « Quel que soit le microbe qui se trouve là-dedans, je veux rentrer avec vous dans le laboratoire. Je veux comprendre ce qui se passe et ce qui risque de se produire. C'est mon enquête. Ma compagne a été cruellement assassiné à cause de ses hommes. » Jacob hésita quelques secondes, consulta le spécialiste de la peste qui hocha la tête.
« Très bien. Mais seulement vous. On ne doit pas être 50 à l'intérieur. Vous enfilez une tenue de protection et toutes mes condoléances pour votre compagne. »
Nicolas eut un petit mouvement de tête, regarda la mordier qui acquiesça d'un coup de menton.
« Allez-y, on se retrouve au 36. J'envoie des hommes chez Hervé Crémieux pour une perquisition. Je préviens le patron, le juge et le légiste. »
La mordier adressa un regard à Jacob.
« Pas le choix. Ils doivent être dans la confidence. »
Le chef du GIM acquiesça, tandis que Nicolas se pliait aux instructions. Une fois désinfecté, il se rapprocha de Jacob et du spécialiste de la peste, prêt à retourner dans le laboratoire. Les hommes ne parlèrent plus, concentrés. L'instant était trop grave et les conséquences de ces découvertes, si elles se révélaient exactes, abominables. En pleine menace de pandémie grippale, Jacob n'imaginait même pas le chaos et la terreur que la présence de la peste sur le territoire français engendrerait. Sébastien Sadouin souleva sa grosse mallette et tendit un appareil photo numérique à Jacob. « Vous prenez des photos. Ça peut être n'importe quel microbe là-dedans. Il n'y a pas que la peste qui tue les rats, d'accord? Et il n'y a pas qu'elle qui soit dangereuse. Vous ne touchez à rien et tout ira bien. Pas de panique, on reste calme et on procède avec méthode. » À 52 ans et en 30 ans de carrière, le spécialiste n'avait étudié la peste que derrière des microscopes, utilisant des souches conservées à Pasteur Paris dans de l'azote liquide. Il tentait de faire bonne figure, mais lui aussi avait les mains moites dans ses gants. Il ouvrit la porte avec prudence. Une bouffée de chaleur le frappa au visage. Il s'assura que son masque était bien positionné, s'avança entre les étages de cages et observa le comportement des animaux, notamment ceux déclarés « contaminés » par une pancarte. Les bêtes tremblaient, roulaient en boule. Certaines gisaient sur le côté, la gueule ouverte, comme pour attraper la moindre molécule d'air. Leur organisme devait être saturé de milliards et de milliards de microbes. « Faites des photos, s'il vous plaît. » Jacob, qui avait refermé la porte, déclencha l'appareil. À cause de la chaleur étouffante, les respirations se firent plus lourdes sous les masques. Plus loin, Sadouin repéra un thermomètre et un hygromètre placés à proximité d'un radiateur électrique. Nicolas suivait la gorge serrée, respirant bruyamment. L'odeur d'insecticide sur les combinaisons se mêlait à la puanteur animale.
« 28 degrés Celsius, 80% d'humidité. »
« Ça vous dit quoi ?»«
On a visiblement affaire à des puces qui ont besoin de chaleur et d'air saturé d'humidité. Des puces qui vivent peut-être dans des régions tropicales. »
Sébastien Sadouin ouvrit prudemment le congélateur, ayant en tête que les bactéries mortelles pouvaient être partout, par centaines, sur les poignets, les appareils, les tables. Si tel était le cas, elles s'accrochaient à ses gants, et il les dispersait lui-même sur tout ce qu'il effleurait. Il jeta un œil à son contenu sans y toucher, puis se dirigea vers la pièce du fond. Il rechaussa correctement ses petites lunettes rondes avec la main qui n'avait touché à rien, en apercevant la quantité phénoménale de puces qui bondissaient ou s'accrochaient aux peaux animales par-dessous. Nicolas sentit ses poils se hérisser. Le policier avait du mal à réaliser ce qui était en train de se produire, à rendre concret le mot « peste », qui, pour lui, n'était qu'une maladie du Moyen Âge.
« Il y a des milliers de puces !» fit Sadouin. « C'est effroyable !»
Le scientifique se tourna vers ses deux interlocuteurs.
« Ça a l'air sérieux, très sérieux. »
Il parcourut des yeux les différents vivariums, vit les emballages de seringues, les tubes à essai. Dans un sac à déchets biologiques, des seringues usagées. Il observa avec attention le système de nourrissage des insectes, la façon dont le laboratoire était organisé.
« Je n'ai jamais vu une chose pareille. On dirait bien que tout est fait pour assurer une reproduction continue et optimale, afin de faire croître sans cesse le nombre de puces. »
Jacob shootait sous tous les angles.
« Comment tout ceci fonctionne ?»
demanda Nicolas.
« C'est complexe à mettre en place parce que la peste tue tout ce qu'elle rencontre, les rongeurs comme les puces.
La stratégie de la bactérie est remarquable. En se dupliquant, elle sature l'estomac de la puce. On parle alors de puce bloquée. De ce fait, une puce bloquée ne digère pas et est affamée en permanence. Elle se met ensuite à piquer tout ce qu'elle peut pour se nourrir, contaminant des rongeurs sains. Ces rongeurs sains tombent malades, meurent plus vite que les puces en quelques jours. Les corps refroidissent, et comme les puces n'aiment que le sang chaud, elles changent d'hôte. Et par conséquent, elles contaminent d'autres individus. Avant de mourir de faim elles-mêmes. Elles meurent, mais l'essentiel est qu'elles ont fait leur travail. Elles ont assuré la survie et la propagation de la bactérie. C'est de cette façon que la peste se véhicule d'individu à individu. Une véritable tueuse à l'armement biologique capable de détruire n'importe quel système immunitaire, y compris le nôtre. Les trois hommes commençaient à suer sous leur combinaison. Sébastien Sadouin ôta ses lunettes embuées. À mon avis, voici comment se déroule cet élevage. On récolte avec une seringue le sang contaminé des rats malades. On le fait goûter dans le nourrisseur. Un nourrisseur de ce type permet d'avoir un contrôle très précis sur les puces, de les comptabiliser et d'éviter surtout qu'elles s'échappent ou se perdent dans les poils d'un animal vivant ou même mort. Car imaginez seulement que l'une d'elles sorte de ces vivariums. Nicolas imaginait aisément, oui. Il en suffisait d'une seule pour déclencher une catastrophe sanitaire internationale. En prenant leur repas, les puces saines deviennent alors contaminées. Le bacille les affame. Quelques jours plus tard, on les change de nourrisseur, on leur fait piquer la peau avec du sang sain récolté sur les individus sains. Ce sang se contamine lui-même, on le réinjecte aux rats sains, qui développent ainsi la maladie et permettent à la bactérie de se multiplier tranquillement dans leur organisme. Et on recommence le cycle. Nicolas se frotta le front avec la manche de sa combinaison. C'est compliqué. C'est très simple, au contraire. Pas besoin de microscope, de solution de croissance, ni de matériel perfectionné. Juste quelques tubes. Des rats sains en permanence. Des puces. Mais il va sans dire que celui qui a créé ce laboratoire clandestin est un expert. Un scientifique qui s'y connaît, qui sait manipuler sans trembler, qui connaît les cycles de reproduction des puces et toute la mécanique de développement de la bactérie. Il faut être très organisé et rigoureux pour éviter de disperser la bactérie qu'on ne traite normalement que dans des laboratoires ultra sécurisés. Nicolas pensait à l'homme-oiseau, au médecin Beck, le meurtrier de Camille. Une bête sanguinaire, impulsive, peut-être un des hommes qui travaillait dans les égouts. Le policier le voyait mal avoir créé ce laboratoire. Hervé Crémieux, lui, était un brillant médecin du travail, d'après Amandine, spécialiste des maladies en rapport avec les eaux usées. Il devait s'y connaître en microbes. Mais aurait-il eu la capacité de monter un tel laboratoire? Était-ce alors l'homme en noir qui avait tout mis en place? Était-ce ici qu'il s'était livré à ses projets les plus diaboliques? Où il avait tout organisé avec ses deux sbires et commencé à développer son élevage maudit pour le mettre ensuite entre les mains de Crémieux et de l'homme-oiseau. Nicolas observa les vivariums. Où pratique-t-on ce genre d'élevage de puces pour étudier la bactérie? Si on parle bien de la peste, il n'y a que quelques endroits au monde où on l'étudie encore de cette façon, en live pour ainsi dire. Évidemment, cela se fait à moindre échelle, il y a beaucoup moins de puces, et dans des conditions de sécurité bien plus élevées, à l'Institut Pasteur de Lille et à Fort Detrick, dans le Maryland. On soupçonne également que quelques pays ont aussi utilisé ces techniques par le passé. Japon, Russie, etc. Mais cela remonte à loin. Quel est le but de ce laboratoire? Répandre la peste? Sébastien Sadouin acquiesça, l'air grave. Ça m'étonnerait fort que ce soit juste dans un but de recherche. Et comment on répand cette bactérie? Sadouin réfléchit.
Si je devais faire un maximum de victimes en un minimum de temps, j'élèverais un maximum de puces saines, je les contaminerais toutes en même temps, en les laissant se nourrir de sang infecté. J'attendrai les 4 jours nécessaires pour qu'elles deviennent le plus contagieuses et je les disperserai dans un lieu à très forte densité. Gare, aéroport, centre commercial. Affamées, elles piqueraient tout animal à sang chaud qui se présenterait à elles avant de mourir au bout de 48 heures. Une semaine plus tard, des gens dans toute la France, voire dans le monde, déclareraient la maladie. Nicolas avait encore de nombreuses questions, mais il n'en pouvait plus. Tout se mélangeait dans sa tête. C'était trop horrible, trop meurtrier, trop inhumain. Il eut un coup de mou en pensant soudain à Camille. Il tituba. Jacob le soutint. « On va sortir. On décontamine. On fait notre travail ici. On va prélever, analyser les puces à Pasteur et à Saint-Louis. Il faut faire vite. » Une fois à l'extérieur du laboratoire, Sébastien Sadouin s'adressa aux collègues qui se tenaient à côté de 2 gros sacs fermés. « On balance l'insecticide pour les puces et le CO2 avec la dose d'isoflurane pour les rats. Mettez le paquet, gazez-moi tout ça. Je ne veux plus un seul être vivant là-dedans dans la demi-heure. » Amandine dit que lorsqu'elle est descendue, le cadenas sur la porte était resté ouvert, fit Nicolas. Elle a également vu l'un des individus avec un sac de sport. « Vous pensez qu'ils ont pu sortir des puces du laboratoire ?» Sadouin resta muet, mais son silence était en soi une réponse. Jacob prit les devants. « Laissez-nous travailler à présent. Nous allons en avoir pour au moins 12 heures. Nous ferons un point avec vous demain. Nous devons rester optimistes. » Il fixa son collègue lorsque Nicolas se glissa sous la douche. Son regard disait tout le contraire.